Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce dernier conseil municipal de l'année 2025. Donc, je vais procéder à l'appel. Jackie Sommeil. Vanessa Savini, absente, pouvoir à Jean-Pierre Monnet. Jean-Pierre Monnet. Myriam Charamazi. Ghislaine Jeunin. Raymond Baudin, absent en réunion à Interco à Chasselet, pouvoir à Jean-Pierre Marion. Jean-Pierre Marion. Francine Arrigoni. Fermin Lopez. Pierre Bluna. Béatrice Rozon. René Roja. Nicolino Tournambé, absent au pouvoir à René Roja. Patricia Morgano. Renaud Mélinon, absent au pouvoir à Myriam Charamazi. Bérangère Champon, absente, pouvoir à Ghislaine Jeunin, Anne-Cécile Germain, Delphine Raymond Allang, absente, pouvoir à Francine Arrigoni, Véronique Bérard, Alexandre Luxos, il doit arriver, il est au travail, Nicolas Bossupica, Eric Silvestrini, Christine Curteau, Daniel Mansip, j'ai pas de nouvelles. Cécile Gaillard, pareil, et Cécile Vision. Donc le quorum est atteint. Je commence par la traditionnelle donc, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 novembre. Est-ce qu'il y a des observations? Mais le micro, s'il te plaît, c'est pour l'enregistrement.
C'était, alors, il faut que je retrouve, mais c'était sur la vente du local, qui se trouve à la gare, où il avait été demandé, alors de tête, par Renaud Mélinon, quel avait été le prix annoncé par les domaines. Ce prix, vous nous l'aviez donné, et rien n'est noté à ce titre-là.
De mémoire, je dirais que le prix était 240 000 et la vente est à 250 000, mais je suis de mémoire sur le prix du domaine. Je vais demander au service qui nous apporte la réponse, mais le prix, c'est 240 000 à 90%. 240 000, on me confirme, 240 000 et la vente était à 250.
Voilà, si ça peut être juste rajouté sur les documents, merci.
Ça sera rajouté. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je propose qu'on nomme Nicolas Bossupica comme secrétaire de séance, étant toujours le plus jeune de l'Assemblée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avant de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal, je voudrais donc vous demander la possibilité d'inscrire une délibération supplémentaire, donc qui serait la 2025-94. Il s'agit d'une délibération relative à un échange foncier entre la commune et l'association diocésaine de Grenoble. Les éléments techniques nécessaires à son instruction ont été reçus récemment. Cette délibération n'a pas pour but d'être inscrite à l'ordre du jour initial, mais c'est un oubli. Enfin, on n'avait pas les éléments pour ça. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de l'ajouter à l'ordre du jour et pour qu'on puisse délibérer ce soir afin de clore ce dossier avec l'association diocésaine. Donc, je mets au vote déjà pour la possibilité de l'inscrire à l'ordre du jour.
Alors, moi, je voudrais juste faire une... Je sais pas, ça marche? Oui, c'est bon.
Oui, oui.
Ce qui est dommage, c'est qu'avec ce château, c'est toujours au dernier moment.
Ah non, mais là, on n'est pas au château. On n'est pas au château. Hein. On est en bas à la cure. Hein.
Oui, mais ça, tout ce qui dépend du diocèse, c'est toujours la même chose.
Non, mais là, c'est pour faire leur rampe d'accès au bâtiment de la cure. Mais on la met pas. On la mettra en 2026.
Voilà.
Il n'y a pas d'urgence, donc voilà.
Il va y avoir des élections, monsieur le maire, donc...
Mais je tiens à préciser qu'il n'y ait pas de confusion pour la presse, c'est pour l'accès à la cure, pour qu'ils puissent faire une rampe PMR. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé d'accélérer le dossier, puisque nous, on n'a pas d'urgence, c'est pour faire l'accès à leur bâtiment, parce qu'ils ont, ils sont pas à PMR aujourd'hui à la cure, ils veulent se mettre PMR, et ils nous ont demandé si on pouvait la passer, et comme les éléments sont arrivés tardivement, on vous le propose, mais on le délibérera en 2026, c'est pas un problème, c'est une demande du diocèse pour cette rampe PMR, mais il n'y a rien à voir avec le Mont Vinet. Donc maintenant j'ouvre le conseil municipal et je laisse la parole à Myriam Charbadji pour la délibération 2025-78.
Allez, bonsoir à toutes et à tous. Donc cette première délibération est une décision budgétaire modificative au budget principal. Donc, pour rappel, les décisions budgétaires modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés. Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d'équilibre et de sincérité que le budget primitif. Concernant cette décision, il s'agit simplement de modifier le chapitre des opérations patrimoniales en dépenses et en recettes sur la section d'investissement afin de pouvoir passer des écritures d'intégration d'ordre non budgétaire. Donc on rappelle que la nomenclature budgétaire et comptable est donc la M57. Les ajustements de crédit se décomposent comme suit. Donc sur la partie investissement, notamment sur les terrains de voirie, autres constructions, dons et legs en capital et autres subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortis. Donc pour cela, on génère un équilibre entre les dépenses et les recettes à hauteur de 88 750 euros. Donc je vous propose donc pour cette première décision modificative d'approuver eh bien, les chiffres que je viens de vous annoncer et qui sont donc présentés en modification.
Il y a des questions? Il n'y a pas de questions, je me renvoie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
On passe à la délibération 2025-79, donc pareil, même principe, une modification, mais pour celle-ci, au budget annexe Vinet Chaleur Bois. Donc on reste sur les mêmes règles que la précédente. Pour cette décision modificative, il s'agit d'ajuster le chapitre des travaux, ainsi que la prise en compte des écritures d'ordre non budgétaire relatives aux intérêts courus non échus. Donc pareil, là on est sur une nomenclature budgétaire et comptable pour la M41 et pour l'investissement, donc on équilibre à zéro pour les dépenses et recettes et pour la partie fonctionnement, on génère un équilibre à hauteur de 1000 euros, ce qui fait que les ajustements de crédit sont à un total de 1000 euros sur la partie dépenses et recettes.
Des questions? Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Je passe à la délibération suivante, donc la 2025-80, où là on aborde les règles et durées d'amortissement pour le budget annexe Vinet Chaleur Bois, toujours sur la nomenclature comptable M41. Donc les durées ne changent pas, mais on est obligé aujourd'hui donc de prendre cette délibération. C'est un procédé qui permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. La mise en œuvre de l'amortissement a pour conséquence de créer un autofinancement minimal afin de maintenir un équilibre sain entre le recours aux fonds propres et à l'emprunt pour le financement des futurs équipements. Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique, c'est-à-dire à la valeur d'acquisition non actualisée. Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire. Les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500 euros et qui revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis en une année. La sortie d'un bien s'effectue selon la méthode du coût moyen, pondérée pour les biens acquis par lot. Donc ce soir, il est proposé de voter des durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles comme suit, en incluant sur les immobilisations incorporelles des frais d'études, des frais de recherche et de développement, des frais d'insertion et tout ce qui est concessions et droits similaires, avec des durées variant de 5 à 3 ans. Et pour les immobilisations corporelles, donc tout ce qui s'agit de terrain, là on comprend les terrains, aménagement de terrain, construction, installation de matériel, installation générale et tout ce qui est matériel et mobilier. Et là on varie entre 40 et 3 ans. Donc aujourd'hui les amortissements en cours sont selon les modalités définies par les délibérations prises précédemment. Les durées d'amortissement pour les biens meubles et immeubles détaillés ci-dessus sont acquises à compter du 1er janvier 2025. Et ce soir, donc, on demande pour cette délibération que les durées d'amortissement présentées aux immobilisations relèvent de l'instruction budgétaire et comptable M41.
Des questions? Bon, ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Je poursuis avec la délibération 2025-81, donc toujours sur le budget Vinet Chaleur Bois. Pour cette fois-ci, une reprise sur provision des exercices antérieurs. Donc, c'est une provision qui est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourra en résulter en fonction du risque financier encouru. La provision donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Après constat du stock de provisions, il est soumis aujourd'hui au vote une reprise de ces provisions et le détail est présenté comme suit. Pour des provisions pour risque, un montant de provision au 1er janvier 2025 à hauteur de 300 000 euros, un montant des reprises de provisions pour 112 000 euros, et un montant des provisions qui reste au 31 décembre 2025 à hauteur de 188 000 euros. Pour les provisions pour gros entretiens et grandes révisions, au 1er janvier 2025, un montant de 200 000 euros. On reprend donc les provisions à hauteur de 27 000 euros, ce qui laisse au 31 décembre 2025 un montant pour 173 000 euros. Donc la reprise sur provision pour risque est aujourd'hui d'un montant de 112 000 euros et on vous demande d'approuver la reprise sur provision pour gros entretiens et grandes révisions pour un montant de 27 000 euros et d'autoriser l'émission d'un titre de recette sur le compte 78-18 du chapitre 78 pour une reprise sur amortissement et provision.
Il y a une petite erreur sur le chapitre et le compte, c'est 78-15 et pas 78-18.
Tu n'en avais pas.
Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 2025-82, donc toujours même Charvagy, le vote du budget primitif 2026.
Allez, on en a fini pour les ajustements, donc on passe sur le vote du budget primitif 2026. Donc aujourd'hui, en introduction, je souhaitais vous dire que ce soir, sur ce conseil municipal, on vit donc un moment important. Ce soir, on va donc examiner et voter le budget 2026, un budget qui vient clore ce mandat municipal. En tant qu'adjointe aux finances, il me paraît essentiel ce soir de m'adresser non seulement à cette assemblée, mais aussi aux habitants de Vinet, car ce budget est avant tout le leur. Ce que nous souhaitions vous dire, c'est que depuis le début de ce mandat, nous avons fait un choix clair et constant, celui de gérer la commune avec sérieux, investir pour l'avenir tout en protégeant le pouvoir d'achat des Vinois. Ce choix n'a jamais varié. Malgré les crises successives, l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie et les contraintes toujours plus fortes imposées aux collectivités. Ce budget 2026 est un budget raisonné, responsable et sincère. Il n'est ni le budget de la facilité. Souvent, on a entendu que le montage d'un budget pouvait s'avérer facile. Mais pour ceux qui étaient présents lors de toutes les commissions, vous avez pu voir qu'il voilà, il fallait souvent s'exprimer et débattre voilà, sur de nombreuses lignes. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail rigoureux construit année après année avec une ligne directrice simple. Au cours de ce mandat, la commune a investi comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Ces investissements ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des équipements concrets au service des habitants. Un gymnase moderne pour nos associations et nos jeunes, un city park qui a donc été accessible à tous, le renforcement de la sécurité comme l'investissement sur le foncier à hauteur des Trois Rois pour 820 000 euros, ainsi que l'achat du château Montvinet. La construction d'une nouvelle école pour accueillir les enfants de Vinet dans de bonnes conditions. Ces projets étaient nécessaires. Ils ont été pensés, programmés et réalisés sans hausse des impôts communaux. Je le dis clairement ce soir et sans ambiguïté, aucun budget de ce mandat n'a été voté avec une augmentation des taux d'imposition. Bien sûr, pour investir, une commune doit parfois recourir à l'emprunt. Alors oui, Vinet s'est endettée, mais elle l'a fait comme le ferait un foyer responsable, en mesurant sa capacité de remboursement, en sécurisant ses équilibres financiers et en anticipant pour l'avenir. Notre niveau d'endettement reste maîtrisé, soutenable et compatible avec la poursuite de nos missions du service public. La dette aujourd'hui n'est pas un tabou lorsqu'elle est utilisée pour construire, équiper et préparer l'avenir. Ce qui serait irresponsable, ce serait de ne rien faire, de laisser vieillir les équipements ou de reporter les décisions sur ceux qui viendront après nous. Ce n'est pas la voie que nous avons choisie. Tout au long de ce mandat, le budget communal a été tenu avec rigueur, transparence et constance. Chaque euro dépensé a été justifié et chaque arbitrage a été assumé. Toujours avec la même exigence, et je le répète encore une nouvelle fois, ne pas augmenter cette pression fiscale sur nos habitants. Ce budget 2026 s'inscrit enfin pleinement dans cette continuité. Il clôt ce mandat avec sérieux, sans artifice et sans effet d'annonce. Il reflète une gestion saine, des choix assumés et un respect profond pour l'argent public. C'est avec cette responsabilité et cette constance, ainsi que ce sens de l'intérêt général, que je vous propose ce soir de voter ce budget, comme étudié en commission. Et les chiffres que nous avons annoncés en commission n'ont pas généré de remarques des membres de la commission. Donc pour ce vote du budget 2026, donc on vous a préparé une présentation qui s'affichera derrière moi et qui fait suite et pour rappel au débat d'orientation budgétaire qui a été présenté au Conseil municipal du 12 novembre ainsi que la commission finances du 2 décembre dernier. Donc ce budget s'annonce avec un équilibre au niveau fonctionnement et investissement en étudiant les dépenses et les recettes pour le fonctionnement à hauteur de 5 289 930 euros. Pour l'investissement, un montant à hauteur de 1 804 970 euros. Et ce qui nous fait un budget total proposé ce soir à hauteur de 7 094 900 euros. Donc on fait un équilibre au global du budget. Si on rentre dans les recettes de fonctionnement, donc on a au niveau de nos recettes détaillées donc par objet et par chapitre des produits de services. Donc on vous a mis la différence sur le BP 2025 qui est à hauteur de 530 570 euros. Aujourd'hui, pour le BP 2026, un montant à hauteur de 461 250 euros, soit une baisse et une évolution de moins de 13%. Des impôts et taxes sur le BP 2025 qui est à 849 880 euros, qui aujourd'hui au BP 2026 sont à 854 880 euros, soit une légère évolution de 1%. Au niveau de la fiscalité directe sur 2025, un montant de 2 583 550 euros. Pour 2026, 2 605 020 euros, soit une évolution de 1%. Pour la partie dotation et participation sur 2025, un montant annoncé est clôturé à 1 176 000 euros. Pour le budget 2026, 1 122 880 euros, soit une baisse de 5%. Pour les produits de gestion courante, 180 000 euros sur 2025 et pour 2026, une projection à hauteur de 167 000 euros, soit une baisse de 7%. Pour les produits financiers, rien ne change, un montant annoncé à 9 000 euros. Les atténuations de charges pour 2025, 58 000 euros et pour 2026, 53 000 euros, soit une baisse de 9%, ce qui laisse un total de recettes réelles pour 2025, un montant à 5 387 000 et pour 2026, un montant annoncé à 5 273 030 euros, soit une baisse de 2%. Pour les opérations d'ordre, une légère baisse de 3%, ce qui laisserait un montant de 16 900 euros pour 2026, ce qui nous laisse des recettes totales pour 2026 à hauteur de 5 289 930 euros, soit une évolution à moins 2%. Aujourd'hui, on fait un vote du budget de BP à BP, avec cette baisse de 2%. Voilà, donc après, je vous laisserai poser vos questions si vous le souhaitez. On revient sur les taux d'imposition pour 2026. Donc, comme annoncé en préambule, la collectivité maintient les taux communaux comme l'année précédente, soit une taxe foncière sur les propriétés bâties à un peu plus de 43%. Donc, on rappelle que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal à la fusion des taux des taxes foncières communales et départementales sur les propriétés bâties. Une taxe foncière sur les propriétés non bâties à un peu plus de 65% et une taxe d'habitation pour les résidences secondaires qui reste à un peu plus de 14%. Sur les dépenses de fonctionnement, donc même principe que pour les recettes. Donc, on vous a remis les principales lignes. Donc, au niveau des charges générales, on ne change quasi pas. Sur 2025, vous voyez qu'on est à 1 458 712. Sur 2026, une projection à 1 457 500. Pour les charges de personnel, une légère baisse. Donc, on serait sur 2026 à 2 528 700. Sur le fonds de péréquation, on reste sur le même montant à hauteur de 5 000 euros. Pour tout ce qui est subvention, participation et qui prend en compte aussi un peu d'informatique, on resterait sur 2026 à 844 350 euros. Des frais financiers qui sont donc à moins 22% et qui là resteraient à hauteur de 133 200 euros. Au niveau des charges spécifiques, ça ne bouge pas, un montant de 10 000 euros. Les dotations aux provisions, pareil, un montant de 10 000 euros comme pour 2025, ce qui laisse donc un total pour 2026 à hauteur de 4 988 750 euros. On retrouve là quelques opérations d'ordre pour 300 000 euros pour 2026, soit une baisse de 14%. Et puis un virement à la section d'investissement pour 1 180 euros, donc soit une baisse de 93%. Donc aujourd'hui, si on fait le total, pour le BP 2026, on serait à 5 289 930 euros. On continue pour la partie donc, investissement, en prenant en compte donc, les recettes et les dépenses. Donc, sur les recettes, donc, on retrouve la ligne d'emprunt donc, à 0 euro. Tout ce qui est dotation comprenant le FCTVA ainsi que voilà, toutes les taxes à hauteur de 509 190 euros pour 2026. Une attente des subventions perçues pour 2026 à hauteur de 739 600 euros. Et puis des produits de cession pour 250 000 euros. Un total de recettes réelles pour 2026 à 1 498 790 euros. De là, on retrouve nos virements à la section d'investissement pour 1 180 euros, des opérations d'ordre entre sections pour 300 000 euros et puis des opérations d'ordre intra-section pour 5 000 euros. Ce qui fait que nous avons un montant total à hauteur de 1 804 970 euros. Pour les dépenses, nous retrouvons le remboursement du capital de la dette pour 434 380 euros, des remboursements de dotation pour 30 000 euros, des immobilisations incorporelles pour 22 000 euros, immobilisation corporelle à hauteur de 1 296 690 euros, pas d'immobilisation en cours, ce qui laisse un total à 1 783 070 euros. Là-dessus, nous avons nos opérations d'ordre entre sections à hauteur de 16 900 euros et nos opérations d'ordre intra-section pour 5 000 euros, ce qui fait un équilibre pour le même montant à hauteur d'1 804 970 euros. J'en ai fini pour ces chiffres pour le budget primitif 2026. Je ne sais pas s'il y a des questions. Comme je vous l'ai rappelé, donc, ce budget est voté par nature et par chapitre. Voilà.
Oui, moi j'ai des remarques à faire. D'abord, c'est un budget primitif, donc on sait très bien que vous pourrez, que, en tous les cas, que l'année prochaine, on pourra y amener des modifications, comme on en fait d'ailleurs là. Sur le dernier budget, on en fait quand même beaucoup, ce qui permet d'arranger certainement, même pas certainement, ce qui permet d'arranger les chiffres. Pour ce qui est de la remarque que vous avez fait qu'on a eu beaucoup de débats et d'arbitrages, c'est faux. On a eu beaucoup de présentations, mais de débats et d'arbitrages, jamais. Je n'ai cessé pendant 4 ans de demander à ce qu'il y ait des débats et des arbitrages. On n'a jamais pu en avoir. Alors, c'est pas grave, mais on ne peut pas dire n'importe quoi aux Vinois. Il faut leur dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'on n'a jamais pu avoir aucun débat, aucun arbitrage. C'est tout.
Bon, je rappellerai que tu étais très silencieux sur les dernières commissions. Ce n'est pas faute d'avoir provoqué les questions et les échanges. Mais ce n'est pas grave, j'entends tout à fait tes remarques.
Mais parce que depuis 4 ans, on n'a aucune réponse.
D'autres questions ?
Ouais, moi j'ai une question peut-être naïve parce que je n'ai pas participé aux commissions et ni au débat le dernier conseil municipal, mais il y a une baisse sur les charges de personnel de 35 000 euros à peu près. Est-ce que c'est un poste de moins ? Parce qu'en fait, je me dis que la masse salariale, elle augmente mécaniquement du fait de l'ancienneté et alors, au-delà de l'évolution du point de vue.
C'est un jeu mécanique. En fait, on a un agent qui va partir à la retraite, qui était donc sur le budget principal et qui était après refacturé au CCS. Et du coup, comme cet agent part à la retraite, on va pouvoir régulariser et on va recruter cette fois sur le CCS. Donc c'est pour ça que sur le budget principal, on a une légère baisse parce qu'on aura effectivement une partie, parce que pas tout à l'heure, parce que ça ne prendra pas toute l'année, une partie de son salaire qui ne se retrouvera plus. Mais globalement, non, il n'y a pas de baisse. On est sur une dimension constante. D'autres questions ? Donc je mets au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Allez, je passe à la suite. Donc le vote du budget annexe 2026 pour le château Montvigny. Donc là, nous avons présenté donc un tableau avec un équilibre au niveau fonctionnement et investissement pour la partie dépenses et recettes, donc pour le fonctionnement à hauteur de 10 000 euros et pour la partie investissement à hauteur de 4 000 euros, ce qui laisse un équilibre de 14 000 euros pour les dépenses et recettes. Donc on rappelle que les 10 000 euros sont un équilibre dans l'attente des résultats de l'exercice et qu'on attend aussi la reprise de résultats avec le vote du CFU, et celui-ci sera donc supprimé par la suite. Donc là, il n'y a pas vraiment de grandes choses à avancer.
Des questions ? Il n'y a pas de question, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
On passe à la délibération 85 pour le vote du budget annexe Vinet Chaleur-Bois. Donc la présentation détaillée, les explications effectuées sur le projet de ce budget primitif vont donc être proposées. Pareil, cela a été vu en commission du 2 décembre 2025. Et puis également en conseil d'exploitation de la régie Vinet Chaleur-Bois du 25 novembre 2025. Donc aujourd'hui, un équilibre pour la partie fonctionnement à hauteur de 611 930 euros. Et pour la partie investissement, un équilibre à hauteur de 251 650 euros. Ce qui laisse un budget 2026 pour un montant de 863 580 euros. Nous avons détaillé pour les dépenses de fonctionnement ainsi que pour les recettes de fonctionnement par ligne principale. Pour les dépenses, des charges générales pour 2026 à hauteur de 312 030 euros, soit une évolution avec une baisse de moins 35%. Des frais financiers pour 2026 qui sont donc projetés à hauteur de 30 895 euros. Des dépenses imprévues pour 7 354 euros, des charges de personnel pour 29 500 euros et puis quelques petites autres charges de gestion courante pour 500 euros. Une dotation aux provisions estimée pour 3 000 euros, ce qui laisse un total de dépenses réelles pour 383 280 euros, soit une baisse de 30%. Là-dessus, on retrouve nos opérations d'ordre pour 228 650 euros et puis un virement à la section d'investissement à zéro, et ce qui nous laisse des dépenses totales pour 611 930 euros. De là, on équilibre par nos recettes de fonctionnement pour des produits de service pour 469 700 euros, des atténuations de charges pour 10 000 euros, des produits exceptionnels à zéro, des reprises de provisions pour 55 000 euros, un total de recettes réelles qui serait à 534 700 euros. On retrouve pareil nos opérations d'ordre pour 77 230 euros et un excédent reporté nul, ce qui fait des dépenses totales pour 611 930 euros, soit un équilibre sur les dépenses et les recettes à moins 33%. Pour la partie investissement, pour les dépenses, on retrouve le remboursement de la dette pour 107 600 euros, quelques études pour 2500 euros, des immobilisations en cours pour 56 900 euros, des dépenses imprévues projetées à 7 420 euros et pas de travaux en cours, ce qui fait un total de dépenses à 174 420 euros pour une baisse de 30%. Pas de déficit reporté et des opérations d'ordre à hauteur de 77 230 euros. Ce qui nous fait un total de dépenses à 251 650 euros. Et pour les recettes, donc nous avons nos subventions reçues qui pour 2026 sera à hauteur de 23 000 euros. Un résultat affecté nul et un emprunt, une ligne d'emprunt nulle. Donc un total de recettes réelles à hauteur de 23 000 euros, des opérations d'ordre pour 228 650 euros, pas de virement de la section de fonctionnement, ce qui fait que nous avons un total de 251 650 euros et donc un équilibre avec le même pourcentage que pour les dépenses à moins 33%.
Des questions?
Non, je suis surpris que... Ça fait des années que la régie, on en a parlé d'ailleurs au dernier conseil, que la régie perd des sous entre ce qui vend et ce qui et ce que lui coûte le fonctionnement. Mais d'un seul coup, ça risque de ça va disparaître et je trouve ça super. Enfin, ça va être bien. On va peut-être pouvoir en proposer des nouveaux branchements aux Vinois qui le demandent depuis quelques années.
Alors, ça ne va pas disparaître, hein, puisque... La régie Chaleur-Bois a été créée en 2012. Donc je pense qu'on ne peut pas me l'imputer. C'est un héritage que je vis. quand on a pris, on était un déficit structurel de 160 000 euros. Aujourd'hui, on est toujours sur des déficits de l'ordre de 90 000 euros et pas 200 000 euros, comme j'ai pu le lire dans la presse. Donc il faut aussi, comme tu le disais tout à l'heure, ne pas dire n'importe quoi aux Vinois. Donc on est effectivement sur un déficit structurel de 90 000 euros, qui sont compensés par des provisions qui ont été faites auparavant. Et aujourd'hui, on travaille d'arrache-pied. C'est comme ça qu'on a pu passer de 170 à 90, parce qu'on a travaillé sur l'amélioration du process et en même temps sur le raccordement d'autres bâtiments qui étaient possibles. Sur le bâtiment que tu cites, l'étude a été faite en 2012. Et la réponse avait déjà été faite en 2012. Elle a dû avoir une autre réponse qui a dû être faite en 2018. Elle a été refaite en début de mandat. Et la réponse est toujours la même. Dans la conception du réseau initial, en 2012, donc on ne peut pas l'imputer à Philippe Rosaire et à son équipe, le dimensionnement du réseau qui est à proximité n'est pas suffisant pour aller aussi loin dans la linéaire par rapport à la puissance demandée, puisqu'en fait, il y aurait une puissance assez faible et qu'on n'arriverait pas à rentabiliser. C'est comme ça que ça a été répondu, mais c'est parce que dans sa conception, ça n'a pas été prévu et conçu pour ça. On peut faire des extensions là où ça a été prévu, mais là où ça n'a pas été prévu. Donc oui, effectivement, je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on puisse m'imputer ce qui a été réalisé en 2012. Aujourd'hui, malheureusement, on vit avec, on travaille. Ça reste un outil excellent pour moi, parce que au-delà de ce qu'on peut imaginer, ok, si on le prend les chiffres bruts, ça perd 90 000 euros. Par contre, ça donne une stabilité de l'énergie aux Vinois, et en particulier pour tout ce qui est pour tous les équipements publics, et en particulier l'EHPAD, la résidence autonomie et tous nos bâtiments à nous, mais aussi un certain nombre de particuliers. Sur un prix qui est à peu près stabilisé, sur un prix qui était du fuel dans les années 2013-2014, le fuel a pris à peu près 1,8 ou 1,9. Je vous laisserai aller faire les schémas, et ChatGPT est très bien fait pour ça. Et vous verrez qu'aujourd'hui, si on n'avait pas fait, si à l'époque cet investissement n'avait pas été fait, on aurait une dépense qui serait supérieure des 90 000 euros qu'on perd effectivement sur la structure. D'autre part, sur le bilan carbone de la régie, je pense qu'il n'est pas à démontrer. Aujourd'hui, on a éliminé toutes les chaudières fuel de l'énergie fossile sur l'ensemble des bâtiments qui desservent. Et j'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être à 2,5 fois le tour de la Terre en économie de bilan carbone chaque année. Donc je pense qu'il y a aussi un côté vertueux à la station. Donc, et on a à peu près aujourd'hui, par rapport aux prévisions de raccordement des futurs et l'évolution des emprunts, on sait que ce produit sera à l'équilibre dans les prochaines années. Donc je pense que ça reste un très bon équipement pour les Vinois. Maintenant, effectivement, comme il a été conçu, puisqu'il était à l'équilibre par rapport à une centrale fossile qui était au bord, qui appartenait à la régie d'électricité à l'époque et qui bénéficiait, qui régénérait beaucoup de bénéfices, malheureusement, la loi, ou heureusement, je ne sais pas comment on peut se positionner, moi je me positionnerais plutôt heureusement, la loi a fait que la production d'électricité avec des matériaux d'énergie fossile qui consommaient du fioul lourd est interdite. Du coup, ne générait plus de résultats positifs, ce qui a nécessité sa vente parce qu'il y avait d'autres intérêts pour des producteurs qu'on n'avait pas, nous, au niveau de la commune. Et aujourd'hui, je pense que le réseau de chaleur bois reste un bon équipement pour la commune, en tous les cas sur le parc énergétique et sur le plan financier. On l'équilibrera dans les années futures. Mais aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'il a été créé en 2012.
Alors, moi, je ne remets pas en cause la régie. Je remets en cause que le branchement du château, il n'est pas moins loin que le branchement de certaines personnes qui l'ont demandé.
Sauf que le branchement du château bénéficie de ces deux œufs très importants, et le branchement du château n'a quasiment rien coûté et permettait en même temps de desservir d'autres équipements plus tard. Donc c'était juste, c'était une aubaine et une opportunité. Il faut aussi saisir les opportunités quand elles sont là. Elles étaient là. On avait aujourd'hui une politique sur les C2E qui était favorable, qui n'est pas toujours favorable, puisque les C2E tiennent en compte de certaines comptes, et ce n'est pas nous qui définissons le règle des C2E. Et que l'immeuble en question, donc je sais que c'est là où habite ta fille, mais néanmoins, ne bénéficie pas de cette largesse de C2E. Pourquoi ? Parce que dans le calcul, ils prennent en compte le linéaire de réseau et la perte de charge qu'on peut générer et la consommation. Ce n'est pas moi qui fais le calcul, c'est la GDN. Donc voilà, on est malheureusement comme ça. Cette réponse a déjà été faite à maintes reprises, hein, puisqu'à la réalisation du projet, on a retrouvé, il y a eu une réponse qui avait été faite déjà au syndic en 2012 ou 2013. En 2018, il y a dû avoir à nouveau une étude qui avait été poussée pour voir comment on pouvait raccorder, ce qui avait même été voir si on ne pouvait pas raccorder les bâtiments qui étaient en dessous du restaurant La Talente à l'époque. Ça a été encore avéré que ça ne fonctionnait pas, que ce n'était pas suivi par la GDN pour le financement, donc pas rentable et pas supportable. Et effectivement, il y a eu une nouvelle demande qui a été faite comme ça en 2022, je crois, et qu'on a malheureusement dû répondre pareil, parce qu'entre-temps, le réseau n'a pas été structuré pour. Je suis désolé. Donc si le réseau avait été structuré pour, ça aurait été une décision non plus technique mais politique, on aurait pu en débattre, mais là on a une impossibilité technique, à moins de repartir depuis la chaufferie, ce qui n'est plus le même coût et pas les mêmes avantages. C'est tout, hein. J'en suis désolé, mais malheureusement, c'est de la technique, là c'est pas de la politique.
Hein. Alors pour info, c'est pas ma fille qui habite pas là-bas.
Bon, peu importe.
C'est pas ma bon. Fille qui habite là-bas.
On passe au vote, s'il n'y a pas d'autres questions, on ferait penser qu'on a oublié les taux. Donc, on finit Vinet-Chalerbois. Il y a d'autres questions sur Vinet-Chalerbois ? Donc, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Allez, je reviens sur les taux.
Il faut faire voter les taux d'imposition, donc comme on a vu précédemment.
Voilà, dans la présentation, vous avez donc fait la présentation des taux des impôts locaux. Donc, c'est la délibération 83. Le taux de la taxe d'habitation figé de 2020 à 2022 est de nouveau voté à compter de 2023. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et sur délibération les logements vacants depuis plus de 2 ans. Donc en conséquence et comme annoncé, il est proposé de maintenir les taux et de fixer les taux communaux pour 2026. Avec un montant un taux pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à hauteur de un peu plus de 14%. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 43,41%. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à hauteur de 65,55%.
Bon, je rappelle que les taux n'ont pas remonté donc, depuis le début du mandat, donc soit depuis 2020. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Allez, on en a fini avec les chiffres pour ma part, pour les votes des différents budgets. Et on passe à la délibération 2025-86. Comme à l'habitude, pour le vote d'une convention qui définit les modalités d'accueil des élèves résidant en dehors de la commune et scolarisé dans les écoles publiques de Vinet. Donc, en application de l'article 212.8 du Code de l'éducation, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait dans le cas où une école publique reçoit un élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune. La commune de résidence n'est pas tenue de participer si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante. La capacité d'accueil suffisante est appréciée en termes quantitatifs, mais aussi qualitatifs, ainsi que le précise une circulaire prévue à cet effet. Et par ailleurs, la commune de résidence est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil dans un nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés. La présente convention a pour objet de prendre en compte les élèves des communes extérieures qui sont donc accueillis sur nos écoles et de préciser le mode d'évaluation des charges. Donc aujourd'hui, les écoles publiques de Vinet reçoivent des élèves domiciliés plusieurs autres communes. Les élèves sont accueillis sur les conditions d'inscription fixées par certaines réglementations. On le rappelle, la commune de résidence ne doit pas avoir d'école ou de capacité d'accueil suffisante. L'enfant renouvelle sa scolarité dans la commune d'accueil jusqu'au terme de la formation préélémentaire ou de la scolarité primaire. Les deux parents travaillent et la commune de résidence ne peut assurer ni la restauration ni la garde des enfants. Et l'état de l'enfant nécessite des soins réguliers et prolongés dans la commune d'accueil. Ou alors, un frère ou une sœur de l'enfant sont déjà inscrits sur l'établissement. Donc pour l'année scolaire 2025-2026, le montant de la contribution pour un élève scolarisé en école maternelle est fixé à 1 840 € et en école élémentaire à un peu plus de 763 €. Donc aujourd'hui, on fixe en fait cette participation par élève aux charges de fonctionnement des écoles.
Des questions ? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Jean-Pierre Monnet pour l'attribution de subventions à l'OCCE pour l'année 2026.
Donc c'est l'attribution de subventions scolaires comme chaque année. Donc deux subventions, l'une de 18 970 € à l'école La Mayette pour les sorties scolaires affiliées à l'Office central de coopérative à l'école, OCCE, de l'Isère. Ça représente 70 € par élève et au total on a 271 élèves. Et une subvention de 23 100, la coopérative scolaire pour le projet Classe de Mère Kerfani, également affiliée à l'OCCE. Le montant définitif sera en fonction des besoins réels. Donc ça fait un total de 42 000 € pour le scolaire.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux subventions ?
Ça veut dire quoi au regard des besoins réels ?
En fait, Kerfani est financée donc par la part des parents, mais celle-là, elle est définie, c'est classique. Et ensuite, il y a des mécénats ou des dons qui peuvent être faits par des entreprises ou des particuliers. Donc, en fonction de ça, et à la fin, on prend la différence. Voilà. Donc, aujourd'hui, par rapport aux rencontres qu'on a eues avec l'école et l'association qui accompagne, on devrait être sur cette partie-là, sur un maximum. Mais on sera peut-être inférieur. En tout cas, on ne sera pas au-dessus. On ne sera pas en dessus, mais on pourra être en dessous. Mais on ne le connaîtra que dans les prochaines semaines. Ça fera l'objet, du coup, d'une décision modificative.
Mais qui sont donc, une bonne décision, celle-là.
Voilà, ce n'est pas toujours négatif.
Ce ne sont pas toujours mauvaises.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? D'autres questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours Jean-Pierre.
Ensuite, c'est la délibération qui va avec cette subvention. C'est la convention d'objectifs et financement de l'OCCE de l'Isère. Et dans cette convention, il y a des engagements de la convention, comme fournir la commune différents son budget, fournir chaque année un compte-rendu financier, fournir les 10 comptes annuels, et puis à la coopérative de tenir une comptabilité et de communiquer en début d'année scolaire. Donc pour cette convention, c'est aussi, pour les élèves, c'est les différentes sorties scolaires, ça aide. Aux différentes sorties scolaires, la classe de mère, les séjours découvertes, les recours à des intervenants dans l'école, des intervenants extérieurs, et des spectacles et autres événements culturels. Donc ça participe beaucoup à l'éducation de nos enfants.
Des questions sur la convention d'objectifs à l'OCCE ? S'il n'y a pas de questions, je vous revois. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours Jean-Pierre pour l'attribution des subventions aux associations.
Pour l'attribution des subventions, pour ce point de l'ordre du jour, on va éviter toute confusion. Les conseillers municipaux impliqués dans une association concernée ne prendront pas part au vote, donc leur demande de... Voilà. Et je vais distribuer une feuille qui va vous permettre de dire ceux qui font partie d'associations.
Le membre.
Membre actif. Donc les subventions, je peux commencer, c'est tout bon ? Oui. Pour les subventions, on va rester sur le même montant que l'année passée. L'attribution des subventions financières, le prêt du matériel, la mise à disposition des locaux, c'est en plus, bien sûr, l'appui du service de communication par les diffusions des informations relatives aux manifestations et les supports municipaux, ainsi que l'aide apportée lors des événements ponctuels. Il sera demandé à toute association bénéficiant d'un soutien communal de s'inscrire dans une démarche de sobriété énergétique. Ça, on est de plus en plus vigilant là-dessus, notamment à l'intérieur des locaux. Donc pour la CCA, je vais vous les lire rapidement. C'est 270, la bonne franquette 2400, amicale d'honneur de 100, 600, APEL 350, Allegria 300, amicale du pays vinois 1200, Arc-en-ciel vinoise 250, Arépation 2000, Association sportive du collège 400, Boule vinoise 900, Brico Girls 150, Club d'activité féminine 200, Club de gym féminine 200, Club de pétanque arc-en-ciel 2300, Club de yoga 350, CMI de vinet 2800, Comité de jumelage 500, Comité des fêtes 32 000, DDEN 100 euros, le HV, l'harmonie vinoise 5 700, FCCV 22 000, Gym Club vinois 2 000, Horizon Tissu 150, Judo Club vinais 1300, Kickboxing 500, la clé de sol 570, la clique 1700, les archers du Tréry 500, les fous du volant 1200, FCE Collège Chassigne 200, les joueurs de la table ronde 200, les arts en fête 2600, le matériel d'art plat 250, patch à la noix 150, section des jeunes sapeurs-pompiers 4000, le karaté 1000 euros, ski club 3250, sous des écoles 2300, souvenirs français 200, tennis club vinois 2000, union sportive vignoise 35400, USEP 360, vinet mieux vivre 200, vinetton 3000, MFR de Châte. Alors jusque-là, c'est toutes les associations vraiment vinoises. Et ensuite, on donne aussi à la MFR de Châte, au lycée Bellevue, qui sont venus nous aider pendant les repas des anciens. La MFR de Bourgoin-Jallieu, parce qu'il y a un membre. L'OCCE, on vient d'en parler. Et Kerfani pour 23 100. Donc ça fait un total de 180 000. Si on prend réellement le total des associations vinoises, ça fait un total de 137 950.
Est-ce qu'il y a des questions sur les subventions aux associations ?
Eh bien, on va faire aussi une remarque. Moi, je ne vais pas voter pour ces subventions, tout simplement parce que 60% de la totalité des subventions, et j'enlève là-dessus l'OCE Kerfani et l'OCE sortie scolaire, mais plus de 60% est reversé à 4 associations, alors qu'il en a, il en existe presque 50. Voilà.
D'autres observations, Cécile ?
Ouais, moi j'avais une question, c'est est-ce qu'on a connaissance du montant global demandé pour les associations ? Parce qu'en fait, je m'étonne que les montants... En fait, une subvention, une subvention qui est constante, c'est une subvention qui baisse, vu que le coût de la vie, il augmente. Et du coup, je me demandais comment l'inflation était prise en compte pour les associations, sachant que j'avais exprimé ma surprise d'observer que la dotation de la Rosière, par contre, était indexée sur l'inflation. Et qu'il me semble que c'était l'une des seules dépenses qui était indexé.
Alors, il faut savoir que toutes les associations ont leur propre budget, leur propre organisation. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement, parce qu'ils ont des cotisations, ils peuvent monter un petit peu leurs cotisations par rapport à ce que ça leur coûte. Et en général, ils ont aussi des réserves. Donc, en général, chaque année, on leur demande le budget, leur budget, savoir combien ils ont besoin. Alors, tu demandais en début savoir ce qu'ils demandent, eux. Et en fait, ils demandent toujours un peu plus, les associations. Mais on s'aperçoit, ce que nous avait dit Eric en début, dans les premières années du mandat, c'était de contrôler aussi les réserves que chaque association avait. C'est-à-dire qu'ils demandent une subvention importante, mais souvent, ils ont des réserves importantes. Donc, pendant ces 5 ans, on a eu de cesse de leur dire de baisser les réserves, parce que c'est, pour les Vinois, donner une subvention quand il y a des réserves importantes, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est suivant les réserves, suivant leurs besoins réels, et on s'aperçoit seulement pour eux que, des fois, d'augmenter un petit peu la cotisation qui était très basse, qui n'a pas bougé depuis 4-5 ans, voire 10 ans, des fois, ça leur permettait d'augmenter leur budget, et de ne pas avoir de dépenses supplémentaires par rapport à ça.
Par ailleurs, avoir une trésorerie pour une association, c'est plutôt intéressant. Ouais. Mais c'était aussi en regardant, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui perçoivent de petites sommes. Et au global, ça fait une dépense qui est importante. Et comment est-ce qu'on pourrait travailler mieux avec ces assos comment c'est fléché? Enfin, l'année dernière, j'avais parlé des critères d'attribution. Et vous aviez partagé la complexité de faire ce travail-là. Donc, c'était plus une remarque globale sur l'accompagnement des associations. J'ai vu que les conventions... les objectifs mis dans les conventions avaient évolué, c'est plus tous les mêmes objectifs pour toutes les associations. Donc là, ça va dans le bon sens, à mon sens, mais je pense qu'il y a un autre travail à faire. Enfin, je me questionne, une asso qui a 150 euros de subvention, qu'est-ce qu'elle en fait, en fait? Ouais, donc soit il y a un besoin Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a en face? Et s'il n'y a pas de besoin, parce qu'il y a une trésorerie et des fonds associatifs qui sont conséquents, peut-être qu'ils peuvent être mis sur une autre association. Voilà.
Alors, une petite précision. Donc, l'indexation de la rosière, c'est unique, c'est pas sur la subvention du comité des fêtes, c'est sur l'attribution qui est faite aux familles, parce que souvent, ça leur sert à faire des dépenses, et elles sont impactées par le coût de la vie, et elles sont, donc c'est un peu le jeu.
Mais on est d'accord que c'est l'une des seules dépenses qui est indexée sur l'inflation.
Oui, mais c'est
le salaire des fonctionnaires ne l'est pas, et les associations non plus. Ouais.
Mais bon, malheureusement, je n'ai pas le pouvoir sur les fonctionnaires, donc, non, on ne va pas rentrer dans le débat du salaire des fonctionnaires. Par contre, pour les associations, il est évident qu'aujourd'hui, on arrive à quelques semaines de la mise à disposition de la maison des associations, puisque l'école Mayette donc, a pu intégrer ses nouveaux locaux. Le bâtiment, donc, aujourd'hui, n'est plus affecté à l'école. On est en train de faire les démarches juridiques pour lui changer son statut, puisqu'il était dans un statut donc, d'école, pour le passer en maison des associations. Et il est évident qu'avec un outil comme celui-là, maison des associations, le gymnase et le dojo complètement remaniés dans ce mandat, le mandat d'après nécessitera probablement de travailler sur les associations et sur l'accompagnement des associations et de quelle manière on fera l'accompagnement. C'est évident. Mais aujourd'hui, on est en fin de mandat. Il n'était pas. D'abord, il manquait un peu de temps on n'arrivait pas à caler et la maison d'association n'est pas encore en service. Donc, quand la maison d'association sera en service, évidemment, je pense qu'il y aura d'autres débats qui vont se mettre en place. Il y a également l'espace de vie sociale qui est en train de se travailler avec le CCS, qui va forcément venir télescoper et travailler avec les associations. On a reçu, entre autres, comme un accord cette semaine, et on se rend compte qu'il y a vraiment un travail évident qui doit se faire tous ensemble. Donc il est sûr que sur le mandat précédent, suivant, il y aura un travail à faire sur les associations d'une manière mais globale, c'est-à-dire pas forcément que sur les subventions, mais même sur l'approche, d'abord par le bâtiment de la maison des associations et par tout ce qui va graviter autour, et comment on accompagnera les associations à terme, ça fera un vrai sujet, ça c'est certain. D'autres questions? Je mets au vote. Donc on fait assaut par assaut, comment global. Vous voulez faire?
C'est global. Hein.
Pardon?
On peut faire global, ça je lève qu'une fois la main.
Non mais je vais être obligé, je pense, de le faire, parce que les services me regardent avec des gros yeux, donc je pense que je vais être obligé de le faire individuel, c'est ça?
Global, là.
Par contre, notez bien du coup sur la fiche, comme ça on fait global et ça permet de bloquer. Donc, qui est contre? Donc, toi, c'est pour toutes, on a bien compris, c'est réglé. Qui s'abstient? Donc, à part Cécile, qui s'abstient pour tout, les autres, en fonction, je suppose, de vos appartenances dans les associations. Donc, je vous remercie.
Alors, je m'abstiens pour. Je vote contre pour toutes parce que je pense qu'il y en a qui auraient mérité d'avoir plus et d'autres peut-être moins.
On a compris.
Donc, la 2025-86, c'est justement la signature des conventions qui vont avec. Donc, principalement celles qui sont, certainement celles qui sont au-dessus de 2000 euros. Donc, on a la bonne franquette, art et passion, club pétanque arc-en-ciel, CMI. Comité des fêtes, Harmonie Vinoise, FCCV, Gym Club, Les Arts en fête, Sélection des sapeurs-pompiers, Ski Club Vinois, Sous des écoles, Tennis, Union Sportive Vinoise et Vinetton. Donc, en général, les thèmes, c'est favoriser le commerce local, économie d'énergie, participation au PEDT et aux travaux avec les écoles pendant l'exposition annuelle de peinture, participation à la rosière, forum des associations. Donc, voilà.
Qui a des questions? Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Ensuite, la délibération 2025-91, c'est la dérogation au repos dominical pour les commerces de vente au détail pour l'année 2026. Cette dérogation permet pour les dimanches déterminés, l'ouverture des commerces avec emploi de salariés sur décision du maire prise après avis du conseil municipal. Donc les dates sont le 4 janvier 2026, 22 février, 21 juin, 12 juillet, 30 août, 4 octobre, 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre et le 27 décembre.
Des questions ? Mais on voit qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc la 2025-92, c'est la signature de convention du dépôt du livre donc Vinet de Didier Junger et dites-moi pour l'année 2026 entre la régie du Grand Séchoir et la commune de Vinet. Donc c'est une convention qu'on prend chaque année. En fait, on a un autre livre qui est en vente pour 25 €. Et là-dessus, il y a une commission qui est reversée au Grand Séchoir pour faire le travail. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous vois. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et je reviens à Myriam.
Donc, une dernière délibération sur la partie ressources humaines. Sur la réévaluation de la participation employeur à la Mutuelle Santé au 1er janvier 2026. Donc en matière de protection sociale pour nos agents, il est obligatoire aujourd'hui qu'une participation financière aux garanties de prévoyance et de santé soit faite. Après l'obligation de participation à la prévoyance au 1er janvier 2025, la participation à la complémentaire santé devient, elle, obligatoire dès début 2026. Actuellement, pour rappel, la collectivité verse une participation de 5 € par mois et par agent. Elle est engagée donc jusqu'au 31 décembre 2026 par une convention de participation qui a donc été conclue avec le CDG 38 et la MNT pour le contrat groupe santé. Pour se conformer aux dispositions légales, la collectivité doit verser aujourd'hui une participation employeur à la complémentaire santé et qui sera fixée à hauteur de 15 € par mois et par agent dès début 2026. Donc on augmente cette participation pour nos agents. Elle sera donc versée uniquement aux agents adhérents au contrat groupe de mutuelle santé qui est donc proposé par la collectivité. Le présent dispositif pourra être réexaminé ou modifié par la commune en fonction de l'évolution du contrat ou des choix futurs concernant cette mutuelle aux agents. Et nous inscrirons donc les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sur notre budget. Voilà, donc en résumé, on passe de 5 à 15 €.
Il y a des questions sur la participation employeur à la mutuelle santé. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On en a terminé avec l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vais vous remercier toutes et tous pour le travail qui a été mené tout au long de l'année 2025. Plus particulièrement également tout au long du mandat, puisque je ne sais pas en fonction des urgences et des délibérations s'il y aura un nouveau conseil municipal. Donc je voulais vous remercier pour tout le travail qui a été accompli avec sérieux et toujours un sens de concertation qui était, à mon sens, important et agréable. 72-73% des délibérations ont été prises à l'unanimité durant ce mandat. Alors, c'est clair qu'à l'approche des élections municipales, j'ai bien senti que c'était moins vrai ce soir. Mais en tous les cas, tout au long du mandat, on a à chaque fois mis en avant l'intérêt général. Et ça, je vous en remercie tous, y compris les membres n'appartenant pas à la majorité, comme je vous l'ai souvent dit. C'était toujours intéressant. Pour moi, et je n'ai assisté à très peu de commissions, donc le débat se faisait en commission. Je remercie d'ailleurs mes adjoints et les conseillers délégués qui ont mené un travail tout au long de ce mandat pour animer et être force de proposition pour pouvoir arriver à mettre nos projets à terme. Tout ça, comme le soulignait notre adjointe aux finances, sans augmenter les impôts des Binois. On a réalisé effectivement un investissement d'un peu plus de 16 millions d'euros avec un peu plus de 5 millions d'euros de subventions et effectivement également 5 millions d'euros de prêts, ce qui est dans la moyenne. Un taux d'endettement qui se situe à 8,5 années à peu près, qui est donc tout à fait tolérable. Aujourd'hui, je pense que les Vinois n'ont pas subi de charges financières supplémentaires, n'ont pas perdu de services publics et je pense qu'aujourd'hui, ils ont des équipements de meilleure qualité quand je pense au gymnase, au dojo, à l'école, bien sûr, et la future maison des associations qui arrive. La maîtrise foncière de l'ensemble du carrefour des Trois-Rois qui va enfin permettre de pouvoir travailler sur des projets, puisqu'on ne peut pas travailler sur des projets si on n'a pas de maîtrise foncière. Plus de 800 000 euros ont été investis sur ce mandat pour avoir la maîtrise complète. On l'a. Donc maintenant, reste à travailler les projets. Donc ça, vraiment, je remercie tout le monde pour tout ce travail qui a été accompli tout au long de ces années et avec chaque fois courtoisie et convivialité. Je rappelle également qu'on aura donc les vœux le 9 janvier, que le 15 janvier, il y aura les vœux aux agents et le 16 janvier, il y aura l'inauguration de la médiathèque intercommunale. Donc là, je vais apporter une petite précision puisque la médiathèque intercommunale est un équipement intercommunal. Sur la commune de Vinay, et j'en suis fier parce que je me suis battu pour qu'on ait ces 3 millions d'euros qui sont investis à Vinay pour la culture et pour le savoir, parce que je reste persuadé qu'on pourra lutter que sur les idées noires par l'apport de culture et de lecture. Cette inauguration est programmée donc le 16 janvier. Le nom de la médiathèque avait été choisi en son temps, enfin. Le premier directeur culturel de l'intercommunalité, qui était M. Demange, avait eu l'idée d'appeler ce bâtiment la caserne. Le deuxième directeur culturel, qui était Florent Vernet, avait également, sur proposition des équipes, fait la proposition à l'intercommunalité et en même temps avait consulté la commune sur une commission qu'avait animée Vanessa Savini pour valider le terme de la caserne. Aujourd'hui, il semblerait que certaines idées qui n'étaient pas forcément celles qui étaient retenues par M. Demange, parce que Demange y voyait, à mon avis, un clin d'œil aux pompiers qui avaient donné de leur vie et de leur temps pour ce bâtiment et que la caserne pouvait être un clin d'œil important pour eux, surtout sur les pompiers qui avaient été disparus. Donc c'était son idée. Ça n'a peut-être pas été repris et bien exprimé dans le temps. Donc aujourd'hui, suite à certains courriers qu'on a reçus, j'ai demandé et je demanderai dans les tout prochains jours, voire heures, à la communauté de communes de surseoir au nom de la caserne, de reporter ça à après les élections pour que les nouvelles équipes municipales puissent débattre de ça avec les équipes. Voilà. Donc ce soir, je vous en fais l'annonce, la médiathèque de Vinay. Et pour moi, ce qui reste le plus important, c'est quand même d'avoir une médiathèque de plus de 800 mètres carrés dédiée à la culture puisse être faite. C'est quand même le plus important. Je suis un peu désolé de l'ampleur que ça a pu prendre sur un nom et pas sur l'investissement, parce qu'on oublie des fois un peu les efforts et que ça ne s'est pas arrivé comme ça. Donc, on reportera le nom et un nom devra être choisi par les prochaines équipes dans les prochains mois après son ouverture. Donc la médiathèque ouvrira avec le nom médiathèque de Vinay. Voilà pour l'information que je voulais faire ce soir. On terminera la soirée par un petit pot pour clore l'année et vous souhaiter également de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, c'est reste le plus important avec bien sûr une bonne santé. Merci à tous.
Merci.